Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Allez, il est avec nous en studio, le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans cette rubrique socio-économique ?
Petite accroche, Macron contre-attaque. Emmanuel Macron, le président, veut faire oublier le désastre de sa réforme des retraites, un désastre en termes de popularité, parce qu'elle est quand même passée. Donc il nous annonce que la réindustrialisation de la France est en marche.
Parlons d'autre chose.
Ah oui, à Dunkerque, on va parler de ça justement, il a annoncé la construction d'une gigafactory, c'est-à-dire une très grande usine de batteries automobiles. Ça sera construit par un Taïwanais, Prologium, et ça devrait créer plusieurs milliers d'emplois. Donc ça, c'est le résultat d'un changement assez radical de politique économique au niveau français, mais aussi au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que on a sonné le tocsin, il faut réindustrialiser la France et l'Europe, il faut réduire nos dépendances, et en s'axant notamment sur les domaines stratégiques d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire transition écologique, voitures électriques, etc. etc. Donc on va parler de politique industrielle, Mathieu.
D'accord.
Ça fait 3 ans qu'on fait cette chronique, j'en ai jamais parlé. Donc il fallait bien qu'on s'y mette un jour.
Qu'est-ce que c'est la politique industrielle ?
T'as bien compris, prof Patrick, qui va commencer par dire ce que c'est et... Deuxième aspect du prof Patrick, je vais faire un petit rappel historique avant.
Okay.
Donc on fera ça en plusieurs fois, Mathieu.
Très bien, c'est une série.
Ouais, exactement.
J'adore.
Alors, définition de la politique industrielle, c'est quoi ? C'est très simple, c'est les mesures que prennent les pouvoirs publics pour favoriser le développement de l'industrie dans un pays ou une zone géographique, l'Europe. Bon, ça part du principe que l'industrie est considérée comme un enjeu stratégique pour le pays en question, pour son développement, pour sa pérennité, sa survie, etc. etc. En France, ça ne date pas d'hier, cette histoire. Ça a commencé avec Colbert. D'accord. Tu te souviens de Colbert ?
Non.
Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis... Combien ?
14.
Oui, bravo.
Yes.
Louis XIV. 17e siècle. Il s'inspire des thèses mercantilistes, c'est-à-dire les ancêtres, entre guillemets, des libéraux qui vont arriver avec Adam Smith. Les mercantilistes, ils sont pour le développement du commerce, pour le développement de la compétitivité. Par contre, ils sont plutôt protectionnistes, les mercantilistes. Donc, il lance un programme, Colbert, de développement des manufactures royales, principalement le secteur du textile. Il va lancer un immense plan de construction de navires qui va amener la France à dépasser l'Angleterre, ce qui est quand même quelque chose à l'époque. Il va mettre en place, attention, des réglementations pour favoriser la concurrence et pour protéger les acteurs nationaux des concurrents étrangers. Voilà. Dans les autres pays, il faudra plutôt attendre un peu plus tard, c'est-à-dire le 19e siècle, pour voir apparaître une politique industrielle avec la révolution industrielle. C'est les plus gros pays d'abord, France, Angleterre, Allemagne et pays voisins, qui sont les pays où commence la révolution industrielle. Et ça se met en place petit à petit à ce moment-là. Mais moi, je vais sauter à pieds joints jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Et donc... Je commence par la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, la politique industrielle en France va se faire de façon résolue. Vraiment, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement dedans, et on commence par les infrastructures, les routes, l'électricité, tout ça. On crée un commissariat général au plan, qui va faire des plans de 5 ans de développement industriel, donc la planification indicative, et qui va cibler des secteurs précis de l'économie à développer, et qui va les aider à se développer par des marchés publics, des projets, et en finançant la recherche. Voilà. Une petite information, le secteur de l'armement sera toujours le petit chéri de la politique industrielle. Il sera vraiment cajolé pendant des décennies, et ça continue encore aujourd'hui.
Ouais.
De Gaulle arrive, 58, la politique industrielle va répondre pour lui à un objectif d'indépendance de la France, de prestige de la France, de puissance de la France. Donc on crée des champions nationaux, du moins l'État aide à la création de champions nationaux. Péchinet, Eugène Kuhlmann, Saint-Gobain, tout un tas de champions. Note bien, en 66, on lance le plan calcul. C'est quoi le plan calcul ? C'est un plan pour développer, monsieur, dame, l'informatique et la gestion de l'information. C'est pas précurseur, ça ?
En 66, c'est la
classe. Ouais, c'est très fort, sauf que c'est un fiasco. Ça marche pas.
Ouais,
sinon, on serait des champions dans l'informatique,
on en
ça se saurait.
Ouais.
Mais c'est dommage, c'était bien vu. Il y aura d'autres projets qui seront faits ensuite avec des pays européens, genre Airbus, Concorde, Ariane. Alors, des réussites, des échecs aussi, un peu de tout là-dedans, il y a à boire et à manger. Si on sort de l'Europe, en Asie, on trouve un équivalent. Le Japon va se développer et ensuite les pays voisins, comme la Corée du Sud, en mettant en place des politiques industrielles très fortes. Au Japon, il y a un ministère qui est légendaire, c'est le MITI, ministère du Commerce Extérieur, surpuissant, qui va aider les groupes japonais à se développer, etc. etc. Alors, ils sont aussi un peu protectionnistes sur les bords. Ils laissent de côté le côté libre-échange que les Américains essaient de pousser. Ça donnera quand même des résultats spectaculaires en termes de développement de ces pays-là. Revenons au niveau européen. Quand même. Parce qu'au niveau européen, ce n'est pas si simple que ça. En fait, dans les années 70, au début des années 70, les États membres ne vont pas réussir à se mettre d'accord pour mettre en place officiellement une politique industrielle européenne. Alors, cet échec dans cette tentative, elle dit des choses. Elle dit qu'en fait, derrière, il y a une divergence entre deux conceptions assez opposées des politiques économiques que doivent mener les pays de l'Union européenne. D'un côté, on a la conception française que je viens de présenter, hein, d'une politique industrielle menée par un État fort pour construire des champions nationaux. Et en face, on a la conception allemande de ce qu'on va appeler l'ordo-libéralisme. L'ordo-libéralisme, c'est le libéralisme à l'allemande, hein, c'est aussi simple que ça. Alors c'est un libéralisme dans lequel l'État a un rôle très important à jouer. Mais attention, avec une optique totalement différente de ce que je viens de décrire précédemment. C'est-à-dire que l'État va construire un cadre réglementaire pour assurer le libre fonctionnement des marchés, un peu comme Colbert l'a fait, hein, je l'avais dit. Il crée des lois, il surveille le comportement des entreprises, il interdit les comportements néfastes, etc., etc. Avec cette optique, en fait, de faire attention à ce que ce soit le consommateur qui gagne à tous ces progrès. Voilà. Mais il s'arrête là. L'État, selon l'ordo-libéralisme allemand, ne doit pas intervenir dans le fonctionnement des structures industrielles. Il ne doit pas aider un secteur, stimuler une entreprise. Ça, c'est niet pour les Allemands ordo-libéraux. Mmh. Bon, attention, hein, côté allemand, ça a été efficace. Hein. Le développement industriel allemand entre la fin du 19e et le début du 20e a été absolument phénoménal. En quelques décennies, en 30 ans, ils ont rattrapé et dépassé, mais en mode fusée, le numéro un mondial qui était quand même l'Angleterre. Donc attention, c'est efficace en Allemagne. C'est basé beaucoup sur une alliance entre les entreprises et les banques régionales qui deviennent des actionnaires de ces entreprises. C'est vraiment une spécificité allemande. Si on revient à la politique industrielle plus à la française que j'ai décrite avec un État fort, elle est plutôt axée sur les entreprises et non pas sur l'intérêt des consommateurs. Il s'agit de renforcer les entreprises, d'encourager certains secteurs, certaines activités, certains types d'entreprises, dans une optique, et là c'est important de le comprendre, de lutte contre le grand concurrent économique de l'Europe, c'est les États-Unis.
Okay.
Il y a vraiment cette vision chez De Gaulle et chez les pays qui sont un peu du même type, l'Italie par exemple, etc.
Il faut battre les Américains.
Oui, oui, il faut résister à la domination américaine de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment ça, construire des champions pour résister. Donc derrière ça, on pourrait dire qu'on a deux visions de l'Europe. Une vision d'une Europe forte, indépendante, mais l'Europe des nations, pourrait-on dire, très gaullienne, d'accord, pourvue d'une identité propre forte, et une vision d'une Europe plus atlantiste, la vision allemande, avec l'ordolibéralisme, une logique fondée sur les respects des principes économiques de ce que j'appelle les néoclassiques, c'est-à-dire les libéraux. Bon, devine quoi, c'est la conception allemande qui va, à partir des années 80, prendre le dessus. D'accord ? Le passage à l'Union européenne, le marché unique, l'adoption de l'euro, tout ça, ça va se faire strictement selon la conception ordo-libérale allemande. Mais alors vraiment à 100%. La politique industrielle, telle que je l'ai décrite, à partir des années 80, passe aux oubliettes.
D'accord.
Voilà. Alors, il faut dire, pour expliquer un peu ça, que les années 70 sont passées par là, qu'elles ont montré les limites des interventions de l'État, d'accord ? Et ces interventions de l'État sont jugées de plus en plus néfastes à l'activité économique. Les idées libérales économiques reviennent sur le devant de la scène, elles redeviennent dominantes, et elles se nourrissent des échecs et des impasses des politiques économiques des années 70, fondées sur des interventions de l'État fortes. Il faut dire aussi qu'à partir des années 80, on rentre dans la mondialisation avec la montée en puissance des marchés financiers, la montée en puissance des multinationales, l'arrivée proche des pays émergents, hein, dans ce petit jeu, et un contexte de transfert de plus en plus massif des industries traditionnelles, sidérurgie, textile et compagnie, de l'Europe vers l'Asie. Mmh. On est, en Europe, en train de parler de désindustrialisation.
Ouais.
Voilà le contexte de ces années 80. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et la suite, au prochain numéro, semaine prochaine.
Des années 80 à nos jours.
Voilà, ce sera la deuxième partie.
Parfait. Merci beaucoup, prof Patrick.
Merci, au revoir.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.